Drive to Zero, le salon européen des solutions pour le déploiement des mobilités décarbonées, les 2 et 3 juin 2026 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et sur notre plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Claire Forel, la directrice générale de Sésame LLD.
C'est ça.
J'ai du mal avec votre nom, pourtant c'est bien connu. Sésame LLD, merci d'être avec nous d'abord, Anne-Claire, c'est un plaisir de vous avoir. Sésame LLD, le syndicat des entreprises des services automobiles en LLD et des mobilités, l'organisation professionnelle qui représente les principaux acteurs de la location longue durée, de la gestion de flotte et des nouvelles mobilités en France. Ses adhérents gèrent près de 2 millions de véhicules et représente environ 30% des immatriculations nationales ainsi que plus de 60% des immatriculations réalisées par les entreprises. Ici à Drive to Zero, Anne-Claire Forel, vous êtes intervenue dans une plénière consacrée à une question centrale, mobilité électrique, de la propriété à l'usage. Quel modèle pour élargir l'accès aux côtés d'acteurs de l'électromobile, de l'électromobilité, des mobilités innovantes et du marché automobile? Alors, justement, par rapport à cette table ronde, est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une transformation profonde du rapport des Français à l'automobile où l'usage prend progressivement le pas sur la possession? En résumé, est-ce la fin de la propriété automobile?
Alors, la fin de la propriété automobile, je saurais le dire. Il y a une tendance pour le particulier, si on parle du particulier, à aimer posséder, en tout cas, son véhicule. Maintenant, la location longue durée est un véritable outil pour accéder aux nouvelles technologies, à des véhicules qui répondent à toutes les dernières normes en termes technologiques, mais également de sécurité, sans se soucier de la valeur du véhicule dans les prochaines années,
oui.
Ce qui permet de tester les nouvelles technologies. Et effectivement, on a un basculement vers l'usage parce que ça va tellement vite, les réglementations vont tellement vite que ça permet de tester sans s'engager trop longtemps. Voilà. Et dans les publicités, on voit qu'on parle aussi beaucoup d'un coût mensuel. On n'est plus sur un coût de propriété pleine. Donc voilà, le glissement vers l'usage se fait naturellement. Tout à fait.
C'est vrai que c'est très pratique. Après, des fois, on se dit comment en sortir, parce qu'il y avait aussi cette question-là. Mais bon, c'est un autre sujet que l'on pourra évoquer également. Les entreprises, je le disais, les entreprises représentent un levier majeur de renouvellement du parc automobile, bien sûr. La location longue durée est-elle aujourd'hui l'un des outils les plus efficaces pour démocratiser le véhicule électrique et accélérer sa diffusion sur le marché de l'occasion?
Alors oui, avec plus de 600 000 immatriculations par an, 66%, vous l'avez dit tout à l'heure, 60% des immatriculations en entreprise se font en location longue durée. Donc elles ont bien compris que c'est par ce biais-là, en tout cas, qu'elles peuvent décarboner leur flotte. Et la LLD est vraiment un outil de gestion à privilégier et qui est déjà privilégié par les gestionnaires de flotte et les chefs d'entreprise pour décarboner leur flotte, se concentrer sur leur activité sans se soucier justement de toute la gestion de la mobilité, parce que un contrat de location longue durée, c'est avant tout un contrat de service auquel sont associés l'entretien, l'assurance, la réparation, donc tout ce qui est fait pour que l'outil, le véhicule, qui est un outil de production finalement, qui accompagne l'activité du chef d'entreprise, soit là pour l'aider dans son activité et non pas un frein. Donc oui, la LLD est un outil de décarbonation massif des flottes d'entreprises et un outil de gestion des mobilités des entreprises.
Alors parallèlement à ça, vous avez récemment souligné le vieillissement des flottes d'entreprises et une certaine prudence des décideurs face aux évolutions réglementaires et fiscales. Est-ce que vous observez aujourd'hui une reprise de l'investissement ou les entreprises restent-elles dans une logique d'attente encore aujourd'hui?
Alors, il y a je ne vais pas faire une réponse à la Normand, mais on a effectivement constaté qu'au vu des évolutions réglementaires, de l'instabilité fiscale, réglementaire, politique, sur ces 10 dernières années, on a constaté un fort ralentissement du renouvellement des flottes d'entreprises et de fait, par conséquence, un vieillissement du parc. Entreprise qui n'était pas arrivée depuis plus de 10 ans. Hein. Donc,
d'accord.
Ça, on l'a constaté fortement, y compris donc, en location longue durée, on n'y échappe pas. Les contrats de voitures sont de location, pardon, sont prolongés par les chefs d'entreprise, oui. Parce que les prix ont augmenté, parce qu'un véhicule neuf aujourd'hui vaut 25 à 30% plus cher qu'il y a 5-6 ans. Et quand on voit les évolutions fiscales qui arrivent, les évolutions réglementaires au niveau européen notamment, hein, avec le paquet automobile, les annonces du ministre de l'Industrie en début d'année sur on va avoir une grande réforme au niveau de la réglementation de la fiscalité automobile, eh ben, un bon chef de famille a tendance à être prudent et à se dire j'attends de voir vers comment vont évoluer les réglementations, quelle va être la pression fiscale pour savoir finalement, oui, la décarbonation, il n'y a pas le choix. De toute façon, il y a une obligation de renouveler les véhicules avec des véhicules de faible émission. Mais on attend un petit peu de savoir quelles vont être les évolutions avec les prochaines lois de finances, les présidentielles derrière. Voilà, qui font autant de sujets d'inquiétude qui sont heureusement, par contre, portés par les loueurs, puisque c'est eux qui sont chargés d'assumer les risques sur ces véhicules-là.
Voilà, donc une affaire à suivre. Et effectivement, le blocage politique fait que aujourd'hui, on est dans l'attente. La réussite de la transition vers le véhicule électrique passe aussi par le développement d'un marché de l'occasion fiable et attractif. Est-ce que vous voyez chez Sesamel LD aujourd'hui émerger un véritable marché secondaire de l'électrique capable de massifier les usages?
Alors oui, de par le nombre d'immatriculations qui est porté par la filière chaque année, hein, j'ai dit à peu près 600 000, plus de 600 000 immatriculations, alors tout véhicule confondu et toute thermie confondue, on est à un véhicule sur quatre par contre aujourd'hui en véhicule électrique, immatriculé en LLD, donc on est à quand même plus de 25%. Il y a eu une forte augmentation ces dernières années due au lancement du leasing social notamment, donc assez tracté par ce segment qui est somme toute petite, parce que la LLD au particulier c'est que 12% quand même chez nous. Oui, le véhicule d'occasion électrique, les retours des premiers véhicules électriques, en tout cas, vont arriver ces prochains mois chez les loueurs et chez les concessionnaires. Donc, ce sera autant de véhicules qui seront mis à la route en véhicules d'occasion. Et pour rassurer les futurs utilisateurs, il y a des contrôles qui sont faits autant sur un véhicule thermique qu'un véhicule électrique. Des diagnostics de batterie, notamment, qui permettent, avec la durabilité technologique de ces véhicules, d'être rassuré sur le fait qu'un véhicule de seconde main électrique d'occasion est tout à fait bien et a été bien entretenu en tout cas et suffisamment bon pour continuer à rouler encore longtemps.
Et il risque d'y avoir un effet aussi que l'on verra sûrement dans les prochains mois en tout cas, consécutif à la guerre au Moyen-Orient et à la crise du pétrole malheureusement, mais qui fait qu'aujourd'hui effectivement les véhicules électriques le vent en poupe en tout cas.
Oui, il y a un petit engouement en tout cas du côté des particuliers sur le fait de s'équiper en véhicules électriques pour éviter justement les coûts à l'usage prohibitifs avec les carburants. Maintenant pour les entreprises, c'est un temps un peu plus long. Donc c'est des décisions qui ont été prises il y a 3-4 mois, parce qu'il y a quand même un temps, si on n'est pas sur de l'occasion, il y a un temps de 2, voire 3 mois, voire 4 hein, parfois, d'attente pour récupérer un véhicule neuf. Donc quand elles peuvent, pour certaines activités et certains usages, les entreprises peuvent se tourner sur de la location de véhicules d'occasion, et donc les loueurs longue durée qui le peuvent répondent effectivement à ce besoin.
Entre quotas de véhicules à faible émission, fiscalité, ZFE et nouvelles obligations pour les entreprises, les règles évoluent rapidement, on le sait. Les acteurs de la mobilité disposent-ils aujourd'hui d'un cadre suffisamment stable pour investir sereinement, d'après vous ?
Alors, pas suffisamment, non, parce que on l'a vu, les dernières réglementations sur le verdissement des flottes, entre les projets de loi qui avancent, qui ont été avortés, des commissions parlementaires qui ont été mises en place, des lois de finances et puis les instabilités gouvernementales font que ça manque justement de sérénité. Et ce que l'on souhaite, malgré l'évolution politique qui est attendue, hein, avec les présidentielles encore une fois, le projet de loi de finances qui arrive, les recettes de l'État qui sont ce qu'elles sont et les évolutions aussi au niveau européen, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne maîtrise pas et qui font que on manque aujourd'hui de stabilité, mais c'est pourtant quelque chose que l'on demande et que nous sommes, je pense, on va dire toute la filière, on est vraiment tous d'accord pour le coup pour demander une stabilité, une lisibilité des mesures fiscales et réglementaires autour de l'automobile.
Si on se projette dans 5 ans, allez, on va dire, les entreprises seront-elles encore, d'après vous, propriétaires de leurs véhicules, ou est-ce qu'on va basculer massivement vers des solutions intégrées qui mêlent location, mobilité partagée, électrification ou autres services associés ?
Alors aujourd'hui, on est déjà à 66% du marché des véhicules d'entreprise qui sont immatriculés en LLD. Ouais. Donc je dirais qu'elles ont déjà basculé, elles ont déjà compris que la LLD leur permet de continuer à accéder à des véhicules de dernière génération et de dernière réglementation aussi, pour accompagner le verdissement qui leur est imposé aussi. Je dirais que le risque est plutôt qu'au vu de toutes les réglementations et de toute l'instabilité réglementaire et fiscale, c'est que le risque, c'est qu'au contraire, elles se désengagent et qu'elles disent à leurs salariés « Je ne gère plus ta mobilité, tu te débrouilles avec la mobilité. » Et si le salarié, en tant que particulier, revient à gérer sa mobilité, c'est un retour à l'achat d'un véhicule qui ne sera pas un véhicule forcément neuf, puisqu'il faut pouvoir acquérir un véhicule neuf. Un véhicule d'occasion probablement, électrique, on ne sait pas. Et aujourd'hui, un particulier conserve un véhicule en moyenne 12 ans. Là où une entreprise change de véhicule tous les 4-5 ans, enfin entre 5 et 7 ans, avec la prolongation du vieillissement du parc dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, pourvu qu'elles ne se désengagent pas, les entreprises, qu'elles continuent à porter la mobilité de leurs salariés et que le verdissement global des flottes continue à se faire via les entreprises. Mais pour ça, il faut de la lisibilité et un cadre réglementaire stable.
Voilà, on y revient, c'est important, vous avez raison de le souligner. Dr Forel, pour terminer, Sésame LLD représente un véhicule d'entreprise sur 3 en France. Quel est aujourd'hui le signal le plus encourageant qui vous fait penser que la transition vers une mobilité décarbonée et accessible est réellement en marche ?
Les entreprises n'ont pas le choix. De toute façon, elles doivent répondre à des réglementations imposées, obligatoires sur le verdissement. Donc la LLD est un facteur de décarbonation massif de ces flottes-là. Le loueur est là pour accompagner justement le client en fonction de son usage et de son besoin. Et on le voit, tout le monde a pris conscience que il fallait décarboner impérativement la mobilité. Donc c'est en marche et le dynamisme, on l'espère, reprendra de plus belle.
Allez, on va rester sur cette note positive. En vous remerciant, Anne-Claire Forest, c'est un plaisir de vous avoir au micro. Merci pour votre expertise. Je rappelle que vous êtes directrice générale du syndicat des entreprises des services automobiles en LLD et des mobilités, Sésame LLD. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Drive to Zero, le salon européen des solutions pour le déploiement des mobilités décarbonées, les 2 et 3 juin 2026 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Imo et Radio Territoria. Drive to Zero, le salon européen des solutions pour le déploiement des mobilités décarbonées, les 2 et 3 juin 2026 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et sur notre plateau Radio Immo, Radio Territoria, nous avons le plaisir de recevoir Christian Rose, directeur transport et logistique de la CGF, la Confédération des grossistes de France. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Bienvenue, merci d'être avec nous. La CGF, la Confédération des grossistes de France, qui est l'organisation professionnelle qui représente les entreprises du commerce de gros et de la distribution inter-entreprises en France, qui fédère une trentaine de fédérations professionnelles et défend les intérêts d'un secteur essentiel à l'approvisionnement des territoires, des commerces, des artisans, des entreprises et des collectivités. J'ai bien résumé ?
C'est un parfait résumé. Je rajouterai quelques chiffres, mais
bien
c'est
sûr.
Très bien.
Mais je vous en prie, on va en discuter voilà, de toute façon. Alors, vous êtes là, vous êtes bien sûr, vous participez à Drive to Zero, vous êtes intervenu sur les nouveaux espaces de logistique urbaine. Pendant longtemps, la logistique a été considérée comme un sujet technique. Est-elle aujourd'hui devenue un véritable enjeu de politique territoriale et d'aménagement urbain, selon vous ?
Je préciserai que la logistique urbaine a longtemps été un sujet réservé au un sujet académique,
oui.
qui a suscité beaucoup de thèses, beaucoup de rapports, tous aussi bons les uns que les autres, bien évidemment, mais qui ne permettait pas d'appréhender le sujet sur le plan très pratique. Et quand je parle de pratique, vous avez raison, il y a l'angle politique et l'angle opérationnel. Et aujourd'hui, on peut considérer que, notamment depuis 5-6 ans, c'est pas si vieux que ça, notamment depuis le premier rapport qu'ont commis Mme Idrac et Mme Jean sur la logistique urbaine en 2021, je dirais que ça a déclenché quelque chose, notamment, et ce quelque chose s'est traduit par deux éléments importants qui ont permis de débloquer et de saisir ce sujet de la logistique urbaine qui était, pour l'instant, qui n'était pas saisi, ni par les élus, ni par les acteurs économiques, chacun se regardant en chien de faïence, sans trop savoir ce que fait l'autre, etc. Donc il y a eu la création du programme Interlude, programme financé par les C2E, qui vise à créer des chartes de logistique urbaine entre les acteurs publics et les acteurs privés. Donc ça a permis déjà la concertation à l'échelon local, donc les gens se sont parlé, ont essayé de se comprendre et sont parvenus à mettre en place des dispositifs, des règles, des études, des mesures permettant de fluidifier au mieux la circulation des logisticiens en zone urbaine dont les grossistes font partie. Et deuxième élément qui caractérise cette concertation, c'est la création de deux comités techniques de liaison de la logistique urbaine, un pour les acteurs publics, un pour les acteurs privés. Là, on se situe à l'échelon national. Et ce sont deux comités qui se parlent, qui produisent des rapports d'ailleurs très pratico-pratiques. Le CPU des acteurs privés a publié en 2025 trois rapports, un sur la multimodalité en zone urbaine, un autre sur l'avitaillement en énergie électrique ou en carburant alternatif, et un troisième sur toutes les mesures qui permettent, je dirais, de favoriser le déploiement de l'électromobilité en zone urbaine. Voilà, donc avec des préconisations, bien évidemment, pour chacun de ces rapports, préconisations qui sont toutes assises sur le bon sens, puisque par définition, les acteurs économiques sont plutôt des gens qui réagissent par bon sens et non pas par dogme. Donc, voilà.
Alors, les habitants aussi, on le voit, exigent aujourd'hui des livraisons toujours plus rapides, tandis que les collectivités souhaitent réduire les nuisances et les émissions. Comment est-ce qu'on peut concilier ces deux attentes qui peuvent parfois sembler contradictoires ?
Alors, c'est une très bonne question dans la mesure où vous avez visé effectivement le e-commerce au travers notamment position du consommateur.
C'est ce qui fait le développement de la logistique aujourd'hui.
Alors, le souci, c'est que la logistique aujourd'hui, elle est bien souvent, et ça c'est un combat de tous les jours, elle est trop souvent perçue par les élus à travers le prisme unique de du e-commerce.
Oui.
En disant voilà, le e-commerce est développé, il est à l'origine de la multiplication des flux en zone urbaine.
On l'a vu notamment dans le secteur de l'immobilier.
Voilà. C'est peut-être pas faux, bien évidemment, que le e-commerce est générateur de flux, c'est normal, mais ça, c'est la partie, je veux dire, émergée de l'iceberg. Il faut plutôt s'intéresser à ce qui est en dessous et qu'on ne voit pas. Et c'est toutes les autres activités qui composent les logistiques urbaines. Mmh. Hein, il y a celle des grossistes, il y a celle des déménageurs, il y a celle des ascensoristes, il y a celle des distributeurs, je dirais, des grands distributeurs qui vont approvisionner leurs enseignes en centre-ville, etc. etc. Voilà, les travaux publics. Donc la logistique urbaine, en réalité, ce sont les logistiques urbaines qui ont chacune leur performance. Alors maintenant, pour répondre à votre question, comment peut-on effectivement réconcilier, je dirais, les attentes de la population et les attentes des collectivités qui veulent peut-être fêter un peu plus de sobriété en matière de livraison et de logistique urbaine. Bon, aujourd'hui, il y a des mesures qui sont prises, il y a des initiatives, si on parle de la logistique du e-commerce, qui sont prises avec des relais colis, des drops impost qui sont mises en place, ouais. etc. Bon, tout ça a son importance. Mais côté B2B, côté professionnel du commerce de gros, nous sommes déjà optimisés. Dans nos organisations, lorsque les 40 000 poids lourds ou les 190 000 véhicules utilitaires légers qu'exploitent les entreprises de commerce de gros rayonnent tous les jours dans les agglomérations, puisque 80% de nos clients sont en agglomération ou en zone périurbaine, on approvisionne ces clients de façon optimisée sous forme de tournée. Le véhicule part rempli du site logistique, il fait sa tournée et il revient, il vient se recharger pour le repartir le lendemain, et il fait ça 5 jours ou 6 jours par semaine. Donc c'est récurrent, régulier. Donc nous, on est déjà dans un mode d'optimisation, donc on peut toujours s'améliorer, c'est évident. Ouais. Je disais à l'instant, les véhicules, une fois que les tournées sont faites, reviennent plutôt vides. Il y a peut-être des initiatives, des innovations à trouver pour qu'on revienne un peu moins vide qu'on ne le fait aujourd'hui. Il y a le développement des emballages, de la consigne, tout ça, ça va se développer et ça va peut-être permettre d'optimiser les équilibres de flux entre l'aller et le retour. Mais globalement, de notre côté, nous, en commerce B2B, on est obligé d'être optimisé puisque nos activités sont ce qu'on appelle, on a coutume de dire, on est des centimiers. Il faut faire beaucoup de volume, beaucoup de chiffres d'affaires pour gagner un peu d'argent. Donc très clairement, si la logistique qui est la deuxième jambe du commerce de gros, hein, sa première c'est le commerce, c'est son cœur de métier, et sa deuxième jambe c'est la logistique. Et si on n'a pas une logistique performante, je dirais sur le plan opérationnel et sur le plan économique, on a du mal à passer.
Bien
donc
sûr.
On n'a pas le choix que d'avoir une logistique performante. Donc toutes les économies qu'on peut drainer, notamment par de meilleures organisations, de meilleures optimisations, de meilleures massifications, on le fera.
D'ailleurs, vous avez récemment mis en avant l'importance du foncier logistique dans les réflexions sur la logistique urbaine durable.
Oui, tout à fait. C'est un point sur lequel on a souhaité mettre l'accent dans le mémorandum qu'on a publié à l'occasion des élections municipales. Un foncier logistique, notre principale préoccupation, nous sommes un secteur toujours en développement et croisons les doigts pour que ça la reste.
Du bois, voilà.
Et ouais. Voilà, touchons du bois. Donc, bien évidemment, qui dit développement dit forcément besoin de surface logistique. Par définition, les entreprises de commerce de gros ont une obligation pour répondre en temps réel aux besoins de leurs clients d'avoir un nombre de références en stock qui est le plus élevé possible. Dans toutes les gammes de produits, tous les prix de produits, toutes les qualités de produits, tous les types de produits qui correspondent à ce qu'attend le client. Si on prend la réparation automobile, vous imaginez qu'une entreprise de distribution de pièces automobiles est obligée d'avoir en stock toutes les pièces de tous les véhicules qui circulent en France, par définition. Donc c'est des millions de références. Et pour avoir ça, bien sûr, il faut exploiter des entrepôts plutôt de taille importante et qui sont consommateurs de foncier. Et à cet égard, voilà, notre crainte et notre souhait, c'est de pouvoir faire en sorte de pouvoir nous préserver du foncier pour pouvoir continuer à nous développer et à préserver du foncier surtout aux abords immédiats des centres-villes, puisque je le disais, notre zone de chalandise, c'est la ville. Donc pour nous, il n'est pas question, et comme les clients, on les livre tous les jours, il n'est pas question que nos sites logistiques soient implantés à 200 km de nos clients. C'est pas concevable. Donc quand on est en région parisienne, nos sites, ils sont à Créteil, ils sont à Évry, ils sont à Maison-Alfort, ils ne sont pas à Orléans. Hein.
Ouais, donc, oui, voilà, c'est important. Voilà. Mais vous insistez aussi régulièrement sur la nécessité d'une concertation publique-privée, justement par rapport à tout ça. Est-ce que les collectivités, les acteurs économiques parviennent réellement à co-construire des solutions efficaces de logistique urbaine aujourd'hui?
Je l'évoque tout à l'heure en introduction quand je parlais du programme Interlude, oui. Qui a lancé effectivement aujourd'hui, il y a 61 61 EPCI.
D'ailleurs, Marie-Jean viendra vous excuser juste après pour nous en parler.
Bah, voilà, donc il y a 61 EPCI qui sont engagés et impliqués dans le programme Interlude. Nous espérons que ce programme sera renouvelé en 2027, puisqu'il est censé s'arrêter en 2026. Il faut qu'on consolide effectivement cette démarche. On considère qu'il n'y a pas meilleure façon de mettre en place des règles de circulation, des règles de stationnement qui sont bien sûr à la main des collectivités, que par la concertation. Cette concertation permet notamment aux acteurs économiques de faire valoir leurs spécificités opérationnelles, leurs contraintes opérationnelles. Et bien évidemment, on pourrait facilement nous dire oui, mais il n'y a qu'à changer nos habitudes et nous adapter aux réglementations. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on a des contraintes, je dirais, économiques, des contraintes de clientèle. Un client, un restaurant, il travaille entre midi et 2, il ne travaille pas entre 16 et 17. Hein,
c'est ça
que ça marche.
Bien sûr.
Donc, on
ne
va pas livrer un restaurant à 15 heures. Hein, on le livre plutôt entre
9
et
15 heures. En général, c'est beaucoup plus tôt, oui.
Plutôt le matin. Voilà, donc ces contraintes, elles sont inhérentes au métier et au métier de nos clients. Donc on est obligé effectivement d'avoir des règles qui soient compatibles ou harmonisées avec l'ensemble de ces contraintes. Et l'un des enjeux majeurs qu'on rencontre aujourd'hui, c'est celui de l'harmonisation des différentes règles de circulation entre différentes agglomérations qui font partie d'un même bassin économique ou qui sont voisines l'une de l'autre. Une entreprise de commerce de gros qui livre ses clients, elle peut livrer ses clients sur deux départements contigus ou trois départements contigus en fonction. Et si d'une commune à une autre, elle est confrontée à des règles de circulation différentes qui ne soient pas harmonisées et qui lui permettent d'assurer sa fluidité dans son organisation, mais qui serait au contraire une entrave à la meilleure optimisation de son organisation, ce serait effectivement du perdant-perdant pour tout le monde, puisque quelque part, l'entreprise de commerce de gros ne pourrait pas livrer ses clients dans les meilleures conditions économiques et servicielles. Et l'autre côté, c'est le risque effectivement pour le client d'être mal desservi, donc quelque part de voir la vitalité des centres-villes être atteinte. Donc il y a vraiment, on est dans la concertation est pour nous un gage de gagnant-gagnant à l'arrivée. De la même façon, lorsqu'on discute avec les agglomérations sur les aires de livraison, les aires de stationnement pour permettre les livraisons, optimiser l'emplacement, le nombre d'aires de livraison, ça permet bien sûr aux collectivités de faire des économies en matière d'installation d'aires de livraison hein, et d'utiliser peut-être du foncier à d'autres usages. Donc à l'arrivée, et qui dit hein, des aires de livraison, un maillage d'aires de livraison bien dimensionné, c'est aussi de la congestion en moins. Qui dit de la congestion en moins dit des émissions de CO en moins, des émissions de polluants atmosphériques en moins. Donc à l'arrivée, et comme les villes sont soucieuse de l'environnement des concitoyens, et c'est tout naturel, bien évidemment, et on adhère complètement à ça, c'est par la concertation qu'on arrive à faire donc ce gagnant-gagnant, que ce qu'on met en place, ça soit gagnant pour la collectivité, pour les citoyens et pour les entreprises, aussi bien les fournisseurs que les clients.
Christian Roux, si on se projette, on aime bien demander ça à nos invités, si on se projette à 10 ans par exemple, en 2035, à quoi ressemblera selon vous une logistique urbaine réussie? Est-ce que ce sera davantage de hubs de proximité, des véhicules zéro émission, des flux mutualisés, une nouvelle organisation complète des villes? Vous voyez ça comment, l'expert que vous êtes?
La logistique, elle est en mouvement perpétuel, elle se nourrit de l'innovation. Il y a vraisemblablement un élément qui va venir nous impacter en matière d'optimisation, de mutualisation, c'est ce que pourra nous apporter l'intelligence artificielle. On n'a pas une idée aujourd'hui de ce que sera l'intelligence artificielle dans 10 ans, personne ne peut le dire,
non.
Encore moins moi qui ne suis pas un expert du sujet, mais je reste convaincu que l'IA, si elle est bien utilisée, sera une source effectivement d'optimisation, hein, donc on gagnera en optimisation. Le verdissement de la flotte, il ne faut aucun doute qu'à échéance 10 ans, on aura dans nos activités de commerce de gros, en tout cas si on suit la trajectoire qu'on s'est fixée dans le plan de décarbonation qu'on a publié en octobre de l'an dernier, si on suit cette trajectoire au fil de l'eau à 2035, on devrait ne pas être trop loin de 80%, 90% de véhicules qui seront électriques d'ici là. Aujourd'hui, les véhicules utilitaires électriques s'améliorent quotidiennement,
oui.
En autonomie, en capacité d'emport, en coût aussi. Donc on est sur le bon chemin. C'est pas encore ça, mais on va y arriver. Le TCO, même chose, lorsqu'on est sur des distances relativement les plus longues, on parvient à s'approcher du TCO du véhicule thermique. Donc ça va, on va dans la bonne direction. Pour le poids lourd, il y a encore un petit peu loin de la coupe aux lèvres. Là, il y a encore beaucoup de travail, notamment de la part des constructeurs. Et je ne suis pas en train de leur jeter la pierre. Je comprends pourquoi ils ont fait ce choix de ne pas de cibler leurs investissements sur certaines silhouettes de véhicules, notamment le tracteur routier, qui est adapté, bien sûr, aux transports interurbains ou internationaux. Mais dans nos activités de commerce de gros, on est sur des activités de proximité. Et la silhouette qu'on utilise, c'est plutôt du porteur, du petit véhicule poids lourd, hein, du 12 tonnes, 14 tonnes, 19 tonnes. Et aujourd'hui, sur le marché, on fait le constat que ce type de silhouette ne s'est pas développé au rythme auquel nous aurions souhaité qu'il se développe. Donc, quelque part, l'ambition de nos industriels n'est pas à la hauteur, ou ce que font nos industriels n'est pas à la hauteur de l'ambition politique qui nous est fixée par les pouvoirs publics français ou européens. Donc, on attend effectivement que l'offre se déploie, bien évidemment, en étant performante. Et tant que cette offre de véhicules électriques ne s'est pas déployée comme nous le souhaiterions, et je rappelle que c'est à l'offre à s'adapter à la demande et pas à la demande à s'adapter à l'offre,
hein, bien sûr,
dans un marché concurrentiel, et c'est comme ça que ça fonctionne, il faut qu'on puisse continuer à recourir à des énergies alternatives. La raison pour laquelle on défend le mix énergétique qui s'est largement développé, notamment lorsque se sont mises en place les ZFE. Hein. Beaucoup d'entreprises, il y a 4-5 ans, l'électrique n'existait pas, se sont détournées vers notamment le Bessan. Hein, le Bessan qui aujourd'hui fait l'objet de toutes les attaques de la part des pouvoirs publics qui veulent en revoir le régime fiscal. Et très clairement, on considère qu'une telle approche, ce serait trahir, je dirais, la confiance qu'ont placé les entreprises en l'État lorsqu'à un moment donné, on leur a demandé de verdir leur flotte et que la seule solution qu'elles avaient sur étagère, c'était notamment le Bessan ou le biogaz. Mmh. Donc à un moment donné, si on leur dit 5 ans plus tard, ben non, tout compte fait, on s'est trompé, on va vous matraquer fiscalement parce que vous avez fait le mauvais choix alors que c'était le seul que vous aviez à disposition, c'est un discours qui n'est pas entendable, et raison pour laquelle on demande, le temps que le système de l'électromobilité arrive à maturité, que nous puissions mobiliser, continuer à mobiliser d'autres énergies que l'électrique. Et on est bien conscient que la trajectoire, l'atterrissage final sera vers l'électrique en 2040.
Hein, ou 2040. Vous m'avez prévenu, Christian Rose, que vous étiez bavard. Je le constate, effectivement, vous avez raison. Alors, en une minute, pour terminer cet entretien, parce que les grossistes livrent quotidiennement les commerces, artisans, restaurateurs, collectivités, entreprises françaises. Quel message, mais en une minute, souhaitez-vous adresser aujourd'hui aux élus qui sont venus nombreux ici sur ce salon Drive to Zero pour que, justement, cette transition écologique des flux de marchandises soit aussi une réussite économique pour les territoires?
Je crois que nos activités, les commerces de gros, sont les débouchés d'un amont constitué d'agriculteurs, de coopératives agricoles, d'industriels. On est présent sur tous les secteurs. Et à partir du moment où 80% de nos clients sont situés en zone urbaine, je dirais que nous participons de la vitalité des territoires, de la préservation de l'activité économique, que notre rôle est essentiel et qu'il y a un lien étroit qui doit être fait par les collectivités entre la fonction commerce, quelle qu'elle soit, commerce de gros, commerce de détail, commerce de distribution, et nos activités de commerce de gros, puisque nous sommes au quotidien au service de... Chaque jour, nous livrons à peu près 1 million de clients dans tous les secteurs d'activité. Hein, et nous pesons, effectivement, je ne l'ai pas dit, nous pesons 1 000 milliards d'euros de chiffre d'affaires et représentons 160 000 entreprises et 1 million de salariés. Et cerise sur le gâteau, nous exploitons également, puisque la fonction logistique est essentielle dans nos activités, à peu près 113 millions de mètres carrés d'entrepôts sur l'ensemble du territoire, autour de 72 000 ou 74 000 entrepôts.
Des chiffres impressionnants. Merci beaucoup, Christian Rose. Je rappelle que vous êtes directeur transport et logistique à la Confédération des grossistes de France. Merci d'être venu. C'était très intéressant de vous écouter.
Merci
et
à
passionnant.
Vous.
On sent le passionné que vous êtes, hein, en tout cas. Merci beaucoup.
Drive to Zero, le salon européen des solutions pour le déploiement des mobilités décarbonées, les 2 et 3 juin 2026 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.